Les matins de France Culture.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Content de vous retrouver, on commence ce matin avec les conséquences de la tempête Harvey aux États-Unis.
Mais la catastrophe est évidemment à la une de toute la presse américaine. Les toitures de maisons envolées, les lignes électriques à terre, les branches d'arbres jonchant le sol, partout les mêmes photos, des stigmates du déluge et puis de nombreuses vidéos d'anonymes témoignent également de la violence du phénomène. Lorsque l'ouragan a touché vendredi les côtes américaines, les vents soufflaient à plus de 215 km à l'heure.
That's a motherfucking tornado. Look at that tree, bro. I almost fucking died. Dude. Crazy ass, bro. That's a tornado.
Oh, shit. Dude. Oh, what shit. The fuck?
Alors, ces vidéos de rafales sont toutes plus spectaculaires les unes que les autres, mais surtout, ce n'est là que le début du supplice, prévient le quotidien de Floride, The Tampa Bay Times, car les abondantes précipitations ont aussitôt provoqué des inondations d'une ampleur considérable, du jamais vu, selon la météo américaine. Depuis hier, la ville de Houston, quatrième plus grande localité du pays, est littéralement noyée sous les flots. Or, interrogé hier sur la chaîne Fox News, le gouverneur du Texas a d'ores et déjà prévenu, c'est grave et ça va empiré. Parallèlement, l'ouragan a également ravivé aux États-Unis le traumatisme de Katrina qui en 2005 avait provoqué, vous en souvenez, une catastrophe humanitaire avec plus de 1800 morts. À l'époque, le président George W. Bush avait été accusé d'indifférence envers les habitants d'une région défavorisée et majoritairement noire. Alors Donald Trump, lui, se rendra demain dans la région, mais déjà une première polémique a vu le jour. Généralement, écrit le magazine Slate, si votre maison est menacée par un ouragan, il y a de fortes chances pour que vous cherchiez refuge et vite. Et de fait, c'est ce qu'il s'est passé pour des milliers de personnes sur la côte texane. Sauf qu'en dépit de la violence de la tempête, l'administration de Donald Trump a décidé de maintenir les contrôles d'identité des automobilistes. Cela signifie que des personnes ne possédant pas de papier d'identité ont pu se faire arrêter par les autorités alors qu'elles tentaient d'échapper à la tempête, précise le site Quartz. Bien entendu, l'annonce n'a pas plu aux associations de défense des droits civils. C'est un choix répugnant, s'insurge ainsi le directeur de la section immigration de l'Union américaine des libertés civiles, avant de préciser « tout le monde, peu importe sa couleur de peau ou son origine, mérite d'être sauvé. » Alors en réalité, et pour être tout à fait exact, cette décision n'a pas forcément été prise directement par le président américain. Reste que celle-ci est bien en phase avec la politique d'immigration de Donald Trump, qui cherche toujours notamment à financer le mur entre le Mexique et les États-Unis. À ce titre d'ailleurs, Trump a tweeté hier, le Mexique étant un des pays au monde où la criminalité est la plus forte, nous devons avoir le mur. Sur les réseaux sociaux, note The Hill, le président s'est immédiatement fait tancer pour le caractère inapproprié de ce message au moment même où le Texas s'était dévasté par la tempête.
Et puis autre polémique, Thomas, toujours aux États-Unis et témoignant là encore de la férocité de la politique anti-immigration défendue par l'administration américaine.
Oui, vendredi soir, Donald Trump a finalement décidé de gracier le shérif le plus dur d'Amérique, comme il aimait à se présenter lui-même, son nom Joe Arpaio. L'homme avait été inculpé en 2011 pour ses pratiques discriminatoires. Pendant 24 ans, dans le comté de Maricopa en Arizona, le shérif opérait un système de profilage. Des milliers d'hispaniques étaient arrêtés et souvent détenus simplement parce qu'ils les soupçonnaient d'être sans papier. Pour cela, il avait été condamné et était en attente de jugement avant donc d'être gracié par Trump. Une décision largement controversée car Arpaio avait eu déjà des problèmes avec la justice à plusieurs reprises. C'est lui qui en 93 avait notamment bâti Tent City, une prison en plein désert où les détenus étaient traités de façon inhumaine sous des tentes avec des températures qui pouvaient atteindre 54 degrés l'été et moins 5 l'hiver, rappelle le journal de Phoenix News Times. Et puis le shérif avait aussi une tendance sadique prononcée, note de son côté The LA Times. Il avait fait installer un système de vidéosurveillance dans plusieurs endroits privés de la prison, dont les toilettes des femmes. Alors à présent, comme le note le temps, ses détracteurs peuvent se rassurer. Démis de ses fonctions, le shérif ne pourra plus faire régner la terreur dans la région. Reste qu'en lui accordant sa grâce, Donald Trump délivre deux messages. Tout d'abord, que bafouer une décision de justice n'est pas un crime et que la traque aux clandestins hispaniques n'a pas de limite. Et puis la question se pose, et si cette grâce allait plus loin qu'un simple service accordé à un ami pour Bill Kristol, un commentateur républicain mais féroce détracteur de Trump. Cette opération n'est rien d'autre qu'une manœuvre. En agissant ainsi, le président montre qu'il fera régulièrement usage de cet instrument. Par exemple, si certains de ses proches, happés par l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, se retrouvaient à être condamnés.
Enfin, direction l'Allemagne à présent, Thomas, avec une enquête sur ces ONG qui sauvent des vies en Méditerranée.
Oui, depuis de nombreuses semaines, les autorités italiennes reprochent aux ONG de croiser trop près les côtes libyennes et de favoriser ainsi l'immigration illégale en prenant en charge les migrants massés dans les canaux des passeurs avant même qu'ils ne soient en situation de détresse. Or, l'enquête menée pendant deux semaines par les journalistes de Die Zeit, repérée par le Courrier International, révèle plusieurs choses. Tout d'abord, que les sauveteurs n'entrent dans les eaux libyennes qu'à la demande du poste central de secours basé à Rome. Ensuite, si les sauveteurs en mer sont obligés d'intervenir, c'est parce que les naufragés ne reçoivent aucune aide des États, ou dit autrement, au lieu de leur offrir des conditions d'entrée régulières, nous les traitons comme des criminels. Enfin, une étude publiée par des chercheurs de l'université d'Oxford montre qu'une présence accrue des sauveteurs n'a pas d'effet sur le nombre de départs de migrants. En clair, l'action des ONG se résume à sauver des vies.